On va prier et puis ensuite on va regarder le thème de ce matin, la résurrection change tout. C'est encore un privilège de pouvoir m'approcher de toi, Dieu créateur, à celui à qui je dois tout. Merci encore parce que tu es un Dieu qui nous aime, tu es un Dieu qui va encore parler à nos cœurs à travers ta parole. Père, je te demande encore ce matin de disposer les cœurs de chacun. Tu connais les joies, les peines, les interrogations, la persévérance, la souffrance de chaque personne. On peut cacher plein de choses aux gens, mais pas à toi. Alors, ce matin encore, je te demande de parler au cœur. Accorde-moi la sagesse qui vient d'en haut, accorde-moi les paroles à propos pour prêcher ta parole avec justesse et que ton peuple soit édifié, encouragé, pour aller de l'avant. Merci encore pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La résurrection change tout. Sans la résurrection, tout s'effondre. Et le texte de base que nous aurons tout à l'heure, que nous verrons, c'est 1 Corinthiens 15, versets 1 à 23. Mais le premier verset que j'aimerais voir avec vous, et c'est avec un frère, on partageait ça, il a partagé ça jeudi à l'étude. Pendant notre temps de prière, c'est ce verset-là, dans Acte 1. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Quelques jours après sa mort sur la croix, Christ est apparu aux disciples et il va les confronter à quelque chose qui les a un peu dépassés, s'appelle la résurrection. Hein, la première fois même qu'il arrive dans cette pièce avec eux, ils sont effrayés, ils ont peur, on dit, qu'est-ce qui se passe? Et on pense que ça va leur donner du zèle et que ça va partir, mais pas de suite. Il va revenir quelque temps après et encore se remontrer à eux. Mais une chose est certaine, c'est que la résurrection a changé leur vie. La résurrection a changé la vie de ses disciples. Et cette résurrection a été annoncée, on l'a lu tout à l'heure, à travers le repas du Seigneur. Il leur a dit, hein, après que je vais être frappé, après que vous allez être dispersés, je vous promets quelque chose, je vais ressusciter. Et je connais personne dans l'histoire qui a osé, peut-être osé si, qui a osé peut-être annoncer sa résurrection, mais c'est pas arrivé en fin de compte. Dire je vais mourir, à la limite. Mais dire je vais mourir de telle manière et en plus je vais ressusciter. Il n'y a que le Christ. Tous les grands leaders de toute religion du monde, et elles sont nombreuses, non. Et le plus terrible de toutes ces religions du monde, c'est que tous leurs leaders sont réellement morts et bien morts. Christ est vivant, il est ressuscité. Et Christ devait ressusciter et se montrer à ses disciples. Pourquoi? Parce que le Christ ressuscité devait être propagé dans tout l'Empire romain. La meilleure période que Dieu a choisie dans l'histoire de l'humanité, en fin de compte. Pourquoi? Dans l'Empire romain, il n'y avait pas de frontières. On pouvait voyager partout, pas besoin de passeport. Tout le monde parlait une langue assez commune. Il n'y avait pas de guerre. La Pax Romana, une période extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. Les moyens de transport, les voies étaient très bien développées par les Romains. Donc c'était un moment stratégique et voulu par Dieu pour l'expansion de l'Évangile et pour que Christ soit prêché, le Christ ressuscité. Et aussi le Christ leur avait dit, vous serez mes témoins. Donc des hommes transformés par le Christ ressuscité et des témoins du Christ ressuscité. Voilà ce qui allait se passer dans cette période de l'Empire romain. Mais il y a une question. Comment se fait-il que cet homme, né dans un petit bled en Israël, en même temps assujetti aux Romains, hein, parce qu'Israël était assujetti aux Romains, que cet homme ait transformé des millions de vies dans l'histoire? Comment se fait-il que cet homme qui n'a jamais écrit de livre, ni levé une armée, et qui n'avait aucun pouvoir politique, soit devenu la personne la plus influente de toute l'histoire de l'humanité? La réponse est simple. La résurrection. La résurrection. La résurrection n'est pas un détail. La résurrection change absolument tout, mes amis. Cette personne qui est Christ a transformé ma vie, a transformé ma vie. L'image vaut ce qu'elle vaut, mais le christianisme sans la résurrection, ça serait comme le film Titanic sans le bateau. Aucun sens. Aucun sens. Sans la résurrection, le christianisme devient une simple philosophie. Il y en a dans ce monde. Ou même une religion moraliste, comme les autres. Sans la résurrection, toute ma théologie s'effondre. Sans la résurrection, aucune espérance après la mort. Sans la résurrection, je reste esclave de ma nature pécheresse. Aucune liberté. Aucune possibilité que mon être intérieur soit transformé. Sans la résurrection, on perd notre temps ce matin. Et l'Église n'a aucun sens. Vous allez être courageux de rester là pendant 35-40 minutes si la résurrection n'a pas eu lieu. Certains chrétiens du 1er siècle ont malheureusement commencé à douter de la résurrection des morts. Et douter de la résurrection des morts impliquait directement la remise en question de la résurrection de Jésus-Christ, du Christ. Pourtant, ils avaient un excellent pasteur. Ils avaient un pasteur qui s'appelait Paul. Je peux vous dire que Paul, sur le thème de la résurrection, il était assez bon. Quand vous lisez ses épîtres, vous voyez que ça revient quasiment dans toutes ses épîtres. Lui, dont la vie a été transformée par le ressuscité. Paul a été marqué par sa rencontre avec le ressuscité à Damas. Il part à Damas avec des lettres pour tuer des chrétiens. L'apôtre Paul partait pour tuer des chrétiens. Il était en mission pour cela. Il respirait la menace et le meurtre. Mais à Damas, il va rencontrer le Christ ressuscité, qui a transformé, qui a changé sa vie dans tous les domaines et à jamais. Et il prêchait le Christ ressuscité. Il prêchait le Christ ressuscité. Le Christ ressuscité était le centre de la vie de Paul. Il vivait pour le Christ ressuscité. Il prêchait le Christ ressuscité. Et Paul a rappelé à ses frères à l'église de Corinthe cette vérité fondamentale qu'on va lire dans quelques instants. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Elle ne sert à rien. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Donc tous les gens, même avant vous qui sont morts, il n'y a rien. Allons dans 1 Corinthiens 15 et regardons un peu que la résurrection change tout. 1 Corinthiens 15, 1 à 23. J'ai prêché ce livre il y a presque 10 ans, quelques années en arrière, et on avait fait 3 messages. Je me souviens à cette époque, 3 messages dans ce qu'on va faire. Donc là, c'est de synthétiser les 3 messages là-dedans, mais en appuyant sur l'importance de la résurrection qui change tout. L'apôtre Paul, qui écrit à ses frères et sœurs de cette église à Corinthe, Corinthe c'est une ville en Grèce, ville très importante, c'est une ville portuaire très importante à cette époque-là. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avortant, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils « il n'y a point de résurrection des morts ?» Voilà, ça c'est la problématique ici, il va répondre à ça. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité mort, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Et si vous continuez, on continue à parler de la résurrection dans tout ce chapitre. Mais dans les premiers versets, on va commencer avec ça, on va voir la résurrection au cœur de l'évangile. Ça, c'est la première chose qu'on va voir dans les versets 1 et 2. On va voir que c'est un évangile qui est reçu, qui est cru et qui est vécu. Hein? L'église à Corinthe, elle n'était pas en très bonne santé. Ce n'est pas l'église dans laquelle on avait trop envie de vivre à ce moment-là. Il y avait beaucoup de désordre, sûrement à cause de leur négligence personnelle de l'évangile. Et Paul veut remettre l'évangile au cœur, ou bien plutôt dans le cœur de ces gens-là, qui reviennent à ce qu'ils ont cru, parce que quand vous lisez le premier chapitre aux Corinthiens, Paul rend grâce de tout ce qu'ils ont eu, de tout ce qu'ils étaient en capacité de faire. Voilà, une église qui avait plein de bonnes choses, et lui-même a été leur pasteur pendant des années. Et là, il veut remettre tout le long de cet épître l'évangile au cœur de ces personnes, justement pour avoir une église qui se remette en ordre, et notamment aussi par rapport aux doutes qu'ils pouvaient avoir par rapport à la résurrection. Et c'est un évangile auquel ces hommes et ces femmes avaient pris part. Hein, c'est ce qu'il dit dans notre texte. On peut relire, il dit « Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. » Donc, ce n'est pas trop mal. « Par lequel vous êtes sauvés. Hein, » Et puis, il leur dit « Voilà, il y a du sens à retenir ça. » Donc, Paul rappelle à cette église, à ces chrétiens authentiques, hein, je crois que c'est vraiment des chrétiens authentiques, qu'ils avaient besoin de revenir à l'évangile parce qu'ils ne s'en sortent plus dans leur péché, parce qu'ils sont envahis par les doutes, remis en question de vérités importantes, et donc il faut revenir à l'évangile, revenir à ce qu'ils ont déjà cru et auquel ils étaient engagés. Et Paul leur dit, si vous ne le gardez pas tel qu'il est, ça ne sert à rien l'évangile. L'importance de l'évangile, ce n'est pas seulement y croire, c'est aussi vivre cet évangile, refléter cet évangile. Et Paul va être très simple dans sa théologie, je ne dis pas simpliste, hein, mais très très simple dans sa théologie, il ne va pas y aller par quatre chemins. Pour Paul, il n'y a pas l'évangile plus quelque chose d'autre. Pour Paul, il y a uniquement l'évangile qui transforme et qui change les gens. Et pour Paul, il va revenir à cet évangile et il va résumer cet évangile tout simplement à une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Cette personne, c'est Jésus-Christ et c'est ce que Paul enseigne ensuite dans les versets 3 à 6. Hein? Un évangile centré sur une personne ressuscitée. Hein? Donc, l'évangile a été reçu. Il a été cru, ils sont en train de vivre ça, problématique, et Paul revient sur l'évangile, il revient sur une personne qui est Christ ressuscité. Vous savez, Paul avait une particularité, et je pense que c'est la particularité de Dieu aussi, dans son caractère, c'est que Paul répétait souvent les mêmes choses. Ce que Paul va répéter ici, dans les versets 3 et 6 qu'on va relire, c'est quelque chose qu'il aura enseigné pendant plusieurs fois et qu'il devait répéter dans ses prédications. La répétition est fondamentale, même si la répétition nous agace. Pour ceux qui sont parents, vous savez que la répétition agace souvent nos enfants. Mais on est obligé de répéter les mêmes choses parce que c'est salutaire. C'est important dans l'éducation. Et Dieu nous éduque aussi par la répétition. Et là, c'est un évangile centré sur une personne ressuscitée et avec quatre faits historiques fondamentaux qu'il va rappeler. Il va dire que Christ est mort, Christ a été enseveli, Christ est ressuscité et Christ est apparu. Donc l'évangile, c'est très important, c'est historique. L'évangile est historique. C'est une personne historique qui a réellement existé et qui a vraiment vécu ces choses-là. Et tout cela, le texte nous dit, selon les Écritures. Ce matin, je ne vais pas m'attarder sur la mort et l'ensevelissement de Christ. Bien sûr, vous l'avez compris dans le thème, je vais m'attarder sur la résurrection, mais on va quand même toucher quelques faits historiques de la mort et de l'ensevelissement dans quelques instants. Mais retenez ça, l'évangile, c'est une personne ressuscitée et un fait historique. La résurrection est un fait historique, pas philosophique. Et si ces faits sont vrais, si tout ce qui est dit, Christ est mort, enseveli, ressuscité et apparu, si tous ces faits sont vrais, alors ça change. Ça change tout. Ça change tout. La mort de Christ a été confirmée par les ennemis, les Romains. Les autorités romaines ont vu ça. Et quand elles arrivent pour dire il s'est passé un truc là, il est ressuscité, vous savez ce qu'ils ont fait, les chefs religieux juifs? Taisez-vous. Ils ont payé. Ces hommes-là, c'était impossible qu'ils mentent. Il s'était vraiment passé quelque chose. C'était un peu l'élite de l'armée romaine qui gardait ce tombeau-là. Sa mort est un accomplissement aussi des Écritures. On l'a lu tout à l'heure dans Ésaïe 53, 700 ans avant, c'était annoncé. Son ensevelissement, c'est vraiment mort. Certains disent, oh non, il a été enlevé au moment de la croix, c'est pas lui qui est vraiment mort. Il a dit, non, il est vraiment mort, Christ. Il a été enseveli, le corps a été préparé. C'est très intéressant par un personnage qu'on voit au début dans l'évangile de Jean qui s'appelle Nicodème. Et si vous avez vu peut-être la série Chosen aussi, on voit cet échange-là avec Nicodème qui est très intéressant. Et Nicodème, c'est lui qui revient. Ce chef religieux qui avait peur, qui se cachait pour aller discuter avec Jésus, pour parler de cette notion de la nouvelle naissance. Parle-moi de ça, je ne comprends pas. Lui, il est là. Les disciples sont tous barrés, mais lui, il est là. Il s'est passé quelque chose dans la vie de Nicodème. Et je pense que Nicodème, sûrement, avait peut-être déjà une anticipation sur que ce Christ-là allait ressusciter. Et donc, ils l'ont déposé dans un tombeau, ils l'ont scellé. Il y avait cette garde romaine, ces soldats entraînés et organisés à ce genre de mission. Et c'était rare qu'un mort, considéré comme un malfaiteur, soit gardé comme un danger majeur. Donc, l'ensevelissement était aussi important. Il fallait que Christ soit mort et enseveli à la vue de tout le monde. Puis arrive la résurrection, un tombeau vide, des linges restés en place, des mensonges officiels. Et Christ apparaît à des centaines de personnes. Je vous lis ce passage dans Matthieu 28, 11 à 15. « Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. » Ils sont partis en courant, ils ne sont jamais revenus. Comment voulez-vous que ces 12, plus que 11, parce qu'il y en a un qui est décédé entre-temps, mais que ces 11 peureux reviennent défier une garde romaine d'élite, soulever une pierre qui pesait je ne sais pas combien de kilos et en plus peut-être avec une petite montée? C'était impossible. Mais il leur dit, vous allez quand même balancer ça comme mensonge. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, ne vous inquiétez pas. Et nous vous tirerons de peine. Les soldats, non, nous on va dire la vérité. Hein. Absolument pas. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les mensonges n'ont pas suffi pour arrêter la propagation du Christ ressuscité. Impossible. Le Christ ressuscité va être propagé dans tout l'Empire romain. Dans tout l'Empire romain. Pas besoin d'influenceurs, de technologie à cette époque-là. En moins de 20 ans, 30 ans, le Christ ressuscité va être prêché et annoncé dans tout l'Empire romain. Il va avoir un changement terrible à ce moment de l'histoire. Le Christ est ressuscité, il va transformer des milliers de vies. Les disciples apeurés, incrédules lors de l'arrestation et la crucifixion de Christ, sont devenus des hommes courageux, des prédicateurs de la résurrection. Ils prêchaient avec puissance, ils étaient prêts à mourir. Comment ces gens qui partent à Gethsémané en courant, qui ont peur, qui renient Jésus-Christ, qui renient Jésus, qui ne veulent pas en entendre parler, comment se fait-il que, quelques temps après, ils se mettent à avoir une puissance, à parler du Christ ressuscité, à parler de Jésus-Christ? Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. Regardez la prédication de l'apôtre Pierre, lui qui l'a renié. Regardez ce qu'il dit après avoir rencontré le Christ ressuscité. Homme israélite, imaginez Pierre, pas grande instruction, qui se retrouve devant des centaines de juifs à Jérusalem. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes, vous l'avez vu tout ça, qu'il a opéré parmi lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. C'était les Romains, donc c'est les Juifs qui sont allés vers les Romains pour c'est eux les impies ici. Mais qu'est-ce qu'il dit? Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'elle fût retenue par elle. Il prêche un Christ ressuscité. Et la résurrection change tout, mes amis. La résurrection produit une transformation réelle dans la vie d'une personne. Pierre a été transformé. Pierre était prêt à mourir pour Christ. Tous les apôtres étaient prêts à mourir pour Christ. Les chrétiens dans les Actes des apôtres vont parler du Christ ressuscité. Leur vie a été changée. L'apôtre Paul, transformé. Je pense que c'est un des plus beaux exemples, sa rencontre avec le Christ ressuscité. Croire en la résurrection du Christ implique que nous croyons que Christ est vivant et qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est vivant, il est le seul médiateur entre Dieu et nous, personne d'autre. Mais croire cela attire la haine contre nous. Et c'est une folie pour les religieux et les athées. Je dis bien les religieux et les athées. C'est une folie de prêcher un Christ ressuscité. C'est ce que Paul dit dans cette même épître aux Corinthiens. Il leur dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les folies, pour les juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Crucifié, et il développe plus tard ressuscité. C'est une folie. Et sans la résurrection, mes amis, tout s'effondre. Sans la résurrection, tout s'effondre. Et ça, c'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie de l'apôtre Paul. Versets 12 à 19. Sans la résurrection, tout s'effondre. Relisons ce passage. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Donc là, il vient de présenter à ces gens-là ce qu'ils avaient cru dans cet évangile. L'évangile, c'est une personne, c'est Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité, qui a été vu. Mais là, il y avait des doutes. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Certains ne croyaient plus à la résurrection des morts. Peut-être à cause d'une influence grecque. Vous savez, à cette époque, il y avait des Grecs, il y avait une philosophie grecque qui pensait que le corps, c'était mauvais et que l'esprit était bon. Donc, il y a eu deux extrêmes qui se sont créés, qui ont dit, bon, bah, tant pis, on fait ce qu'on veut. Hein. Le corps, on s'en fout de toute façon. Et c'est l'esprit, de toute façon, qui ira juste auprès de Dieu. Et puis, il y avait les autres, non, qui faisaient tout l'inverse. Il fallait assujettir son corps, le flageller et tout ça. Ça crée des mouvements différents. Mais ici, surtout, c'est que des gens, ils avaient un rejet, du coup, de la résurrection corporelle. Et c'est peut-être ça qui commençait à leur faire des doutes sur la résurrection. Mais le corps est très important pour Dieu. Notre corps est très important. Et notre corps va ressusciter un jour parce que Christ est ressuscité. Et ça, c'est le raisonnement de Paul qui est très simple. Du verset 12 à 19 qu'on vient de lire, il n'y va pas par quatre chemins. Il dit, si pas de résurrection des morts, Christ n'est pas ressuscité. C'est très simple. Si Christ n'est pas ressuscité, alors plus de bonnes nouvelles. Pas de salut, pas d'espérance, pas de pardon, pas de grâce, pas de joie, pas de paix. Le péché et la mort triomphent en fin de compte. Pas de résurrection. Christ n'a plus lieu d'être. Christ n'a plus lieu d'être. Si Christ n'est pas ressuscité, la Bible est fausse. Les apôtres sont des menteurs, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Ce livre ne sert à rien. La prédication de Paul est vide. La foi en Christ est inutile. La vie chrétienne n'a aucun sens. Je vais même aller plus loin. La vie chrétienne est misérable. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et ces chrétiens vivaient comme si tout se terminait ici-bas. Si tout s'arrête à la mort, la question c'est pourquoi vivre pour Dieu? Si tout s'arrête à la mort, pourquoi vivre pour Dieu? Pourquoi vous galérez à vous lever tout le matin pour venir ici? Vraiment. Sauf si Christ est ressuscité. Et ça change tout. Est-ce que tu crois à la résurrection? Christ. Ça, c'est une question fondamentale. Est-ce que tu crois à la résurrection du Christ? Et je ne pose pas une question intellectuelle. Est-ce que tu crois vraiment à la résurrection du Christ? Ou est-ce que tu as des doutes sur ça? Est-ce que tu crois vraiment que tu vas ressusciter après la mort parce que tu lui appartiens? Ou est-ce que tu as aussi des doutes là-dessus? Et t'es pas sûr en fin de compte. Et c'est là que la parole de Dieu est importante parce que Paul est confronté à des gens qui avaient ces doutes-là, des véritables croyants. Et il veut les encourager, les rassurer, leur rappeler ce qu'ils ont cru en fin de compte, au départ. Et des fois dans notre vie, il y a plein d'événements qui arrivent qui vont remettre en question, est-ce que je crois vraiment ça? C'est une réalité, hein? Ma chair, le mouvement, la pensée de ce monde veut nous mettre toujours dans le doute. Vous savez, la première chose que Satan a fait dans le jardin d'Éden, il va voir Adam et Ève qui étaient en communion parfaite qui étaient en communion parfaite avec Dieu. Il dit, t'es sûr que Dieu a vraiment dit ça? T'es vraiment sûr? Il remet en question l'Écriture. La Bible est toujours remise en question. Et pourtant, elle est toujours là et ses contradicteurs meurent et disparaissent. Et elle est encore là. Et elle restera là, elle est authentique. Et elle parle d'un Christ ressuscité. Ma compréhension de la résurrection impacte ma vie ici-bas. Si Christ est ressuscité, alors ma vie actuelle doit changer. Et elle a été transformée. Et c'est ce que Paul dit dans la suite. Dans la suite, Paul parle de la résurrection qui est certaine et garantit mon avenir. Après avoir répondu de manière très juive, par plein de questions. Ok, Christ n'est pas ressuscité, il leur pose plein de questions. Maintenant, il arrive avec ce que lui croit profondément. Parce que lui, il a expérimenté ça à Damas. Et il leur dit, Christ est ressuscité. C'est ce qu'il dit. Hein? On relit ce verset. Les mais dans la Bible sont très intéressants. Hein? Quand vous les aimez, vous pouvez même les souligner. Il y a des changements qui sont pertinents. Ils ne sont pas là au hasard. Il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun saura Christ comme prémice, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Christ ressuscité est une garantie que les croyants ressusciteront aussi. Je suis sûr et certain qu'un jour je ressusciterai avec Christ. Alors quel corps? Mes enfants me disent, mais papa, on aura quel corps? Comment ça s'agit? Écoute, ça, j'en sais rien. La Bible ne nous donne pas d'informations trop là-dessus. Mais je ressusciterai avec un corps différent, dans un cadre où le péché, la mort, la souffrance n'existeront plus. Pourquoi? Parce que Jésus a proclamé ceci en Jean chapitre 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. En Jean chapitre 6, on avait un échange avec des frères lundi sur ce passage-là. Il dit en Jean chapitre 6, Jésus aussi, versets 39 à 40, « Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est Jésus qui parle du Père, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Et il rappuie une deuxième fois, « Je le ressusciterai au dernier jour. » C'est le Christ qui parle, c'est Jésus lui-même qui parle de ça. Et Paul est convaincu que ce que Christ a dit de sa rencontre avec lui, ça se réalisera. Alors ici, il y a peut-être un mot qui peut être un peu bizarre dans vos traductions. Je pense certaines, c'est marqué la notion des premiers fruits. Il dit « Christ est les prémices hein ». Christ est les prémices, alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, pour comprendre ça, il faut revenir un peu avec une pensée juive. Et Paul reprend l'enseignement de l'Ancien Testament. Au moment de la moisson, les Israélites devaient apporter une offrande. On appelle ça la première partie de la récolte. Et en mettant la première partie de la récolte, en faisant confiance, hein, c'est une question de faire confiance à Dieu, on ne se le gardait pas pour soi, mais la première de la partie de la récolte, on la donnait à Dieu, donc on appelait ça des prémices. Et ces prémices étaient une garantie pour l'ensemble de la récolte, parce que Dieu avait approuvé ça et il allait bénir la suite. Hein. Et donc les premiers fruits garantissaient la récolte si on les amenait en offrande. Et là, Jésus représente ces premiers fruits, représente ce prémice. Hein, il est cette offrande qui est offerte à Dieu et qui va garantir la suite. Il est le premier à avoir eu part à la résurrection incorruptible. Il y a des gens qui sont ressuscités dans la Bible, mais pas de manière incorruptible. Et le Christ, lui, il a expérimenté ça. Et donc, sa résurrection va garantir la récolte, c'est-à-dire la résurrection des croyants. Premièrement, vous allez ressusciter spirituellement par le Saint-Esprit, ici-bas. Et ensuite, vous allez être garanti d'une résurrection corporelle dans les cieux. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que quand Dieu vient nous visiter, quand Dieu nous transforme, il nous ressuscite premièrement, spirituellement, alors que nous étions morts, Et ensuite, il nous garantit une résurrection dans les cieux. Et ça, la résurrection de Christ, il n'y a rien de plus qui nous sécurise en fin de compte. La mort ne doit pas nous inquiéter. On l'appréhende, c'est une réalité. Mais la mort en tant que chrétien, c'est juste une étape pour voir le roi des rois, le seigneur des seigneurs, un jour. Et en tant que ressuscité, je peux vivre sans peur de la mort. Sans peur de la mort. Parce que Dieu dit qu'il nous ressuscitera dans sa présence. Je ne m'attarde pas trop sur les termes de Adam et de Christ ici, mais juste peut-être une petite explication assez courte avant de voir la résurrection transformer ma vie aujourd'hui. On finira avec ce point-là. Le péché d'Adam a été mis malheureusement sur le compte de chaque humain. Que tu le veuilles ou pas, tu ne deviens pas pécheur en péchant, c'est que parce que tu es pécheur, tu as la nature pécheresse, tu pèches. Hein, c'est juste quand tu pèches, c'est parce que c'est ce que tu es. Et nous avons, par le péché d'Adam, il nous a communiqué cette nature pécheresse. Et ça, c'est ça qui fait la rupture entre Dieu et nous. Et c'est pour ça qu'on parle du premier Adam. Et tout comme vous n'allez rien faire non plus pour hériter de cette, on parle souvent de cette nouvelle naissance ou de cette résurrection, je ne peux pas me ressusciter par moi, vu que je suis mort à cause de cette nature pécheresse que Adam m'a donnée. Quand Christ me ressuscite spirituellement, c'est par lui que je ressuscite. Donc, Adam nous a plongé l'humanité dans cette nature pécheresse et cette séparation avec Dieu. Jésus-Christ est la bonne nouvelle qui vient pour nous réconcilier avec Dieu et faire de nous des personnes ressuscitées spirituellement et un jour physiquement. On finit, la résurrection transforme ma vie aujourd'hui. Et là, je vais quitter 1 Corinthiens 15 volontairement pour revenir dans le passage que je vous ai partagé tout à l'heure dans le repas du Seigneur, Colossiens 3. 1-17, et on va finir avec ce magnifique texte qui nous montre comment la vie de ressuscité doit déjà être vécue ici-bas. Colossiens 3, et nous irons du verset 1 à 17. Colossiens 3, verset 1 à 17. Donc c'est une autre église hein, à laquelle Paul s'adresse, et il parle aussi de cette notion d'être ressuscité. Il leur dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il leur dit, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc là, on voit que si donc vous êtes ressuscité avec Christ, donc c'est maintenant, cherchez déjà les choses d'en haut, c'est maintenant, affectionnez-vous aux choses d'en haut, c'est maintenant. Et puis un jour, il dit, voilà, vous paraîtrez aussi avec lui, ça c'est plus tard. Mais la question, c'est que c'est quoi ces choses d'en haut? C'est quoi toutes ces choses-là? Eh bien, il donne des réflexions et des indices dans les versets 5 à 17. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, avant que vous étiez ressuscité spirituellement. Quand vous étiez mort spirituellement, ces choses-là, c'était normal de les faire. Lorsque vous viviez dans ces péchés. Encore un petit mais, verset 8, très intéressant. Mais maintenant, que vous êtes ressuscité, que vous voyez clair, que votre vie est nouvelle, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est celui qui est ressuscité, c'est un synonyme, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, importance de connaître Dieu, de prendre du temps avec lui. Il n'y a ni ici, ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Quand on est ressuscité, il n'y a pas de distinction par rapport au salut. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, donc comme des gens ressuscités, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pourquoi? Parce que Christ a fait ça. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour ou de la charité en fonction des traductions, qui est le lien de la perfection. Et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Il y a un tableau, hein, là-bas, vous pouvez marquer « Je suis reconnaissant pour ». Que la parole de Christ, Elle est ici. Hein. Habite parmi vous abondamment. Pas un peu. Pas un peu. Être ressuscité change ma relation avec Dieu. Maintenant, il n'y a jamais. Et j'arrête de remettre à plus tard cette relation avec Christ et sa parole. Il faut arrêter de remettre à plus tard ça. Il faut arrêter de négliger ça. C'est tellement vital. C'est vital. Imaginez que Dieu le Père te dise, ah, écoute, je n'ai pas le temps pour toi aujourd'hui. Pourquoi ? Ben, je suis occupé à autre chose. Ça serait quoi votre ressenti ? C'est quoi ce Dieu-là ? Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Ne vous en privez pas. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de sa grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. La résurrection change tout. J'étais mort et maintenant je vis. Et en tant que ressuscité, j'ai la responsabilité de chercher les choses d'en haut et de m'y affectionner. Et ça, c'est tout ce qu'on vient de lire et qu'on retrouve dans quasiment toutes les épîtres de l'apôtre Paul. Colossiens 6, 17 présente une vie de ressuscité. La résurrection change tout, mes amis. On ne peut plus vivre pareil. C'est une nouvelle vie dans l'attente d'une espérance. J'aimerais finir avec vous avec cette petite diapo. On la voit plus trop bien. Jésus est ressuscité et j'ai toutes les raisons de vivre ici-bas pour lui et comme quelqu'un qui vivra pour toujours avec lui. Et si je vis, c'est parce qu'il est ressuscité. Et je puis tout par Jésus-Christ. Amen.